Les 10h04 sur Demoiselle, c'est parti pour la dernière de la saison déjà de Paroles d'Animaux. Et c'est présenté évidemment par Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour Pierre, oui le temps passe vite, hein, effectivement.
C'est, ça a déroulé là, cette saison.
Voilà, donc
comment vous allez?
Ça va très bien, merci. Alors un peu fatigué hein, de toute
oui,
cette saison.
Oui, c'est normal.
Mais bon, voilà, on est reparti encore. Pour aujourd'hui.
Jusqu'à 11h et en
jusqu'à
plus aujourd'hui on va parler d'un dispositif qui va sûrement intéresser nos auditeurs, je vous laisse la présentation.
Bien, voilà, donc je vais présenter, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paroles d'Animaux, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour le bien-être animal et qui nous invitent à réfléchir à la place de l'animal dans notre société. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois la protection animale, la solidarité et la lutte contre la précarité. Quand on croise une personne sans domicile accompagnée de son chien, beaucoup d'idées reçues surgissent immédiatement. Certains pensent que l'animal est malheureux, qu'il est négligé ou encore qu'une personne en difficulté financière ne devrait pas avoir un animal. Pourtant, la réalité est bien différente. Pour beaucoup de personnes vivant à la rue, leur chien est bien plus qu'un compagnon. Il représente une présence rassurante, un soutien moral, une responsabilité quotidienne et parfois même le dernier lien affectif qui leur reste. Mais ce lien peut aussi devenir un obstacle lorsqu'il s'agit d'accéder aux soins, à un hébergement ou à une formation ou encore à un emploi. C'est précisément pour répondre à cette problématique qu'est né le dispositif Chien et Maître à la rue porté par Altea Cabestan. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Annabelle Horiou, éducatrice spécialisée, et Sylvain Pérez-Ruiz, responsable de ce dispositif. Bonjour Annabelle et Sylvain, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, bonjour à tous, je suis Annabelle Horiou, je travaille pour Altea Cabestan depuis 5 mois en tant que chargée de mission sociale, chien et maître à la rue. Je suis éducatrice depuis une quinzaine d'années.
Parfait. Et vous, Sylvain ?
Monsieur Pérez, Sylvain, je suis chef de service au sein de l'association Altea Cabestan sur les services de l'urgence sociale et de mise à l'abri des personnes sans domicile. Voilà, c'est dans ce...
Très bien, merci à vous deux. Alors, depuis février, vous avez repris donc la coordination du dispositif. En quoi consiste exactement votre mission aujourd'hui ?
Alors, le projet comporte deux missions. La première mission qui est celle qui prend le plus de temps pour l'instant, c'est celle de gérer l'offre de services qui comprend l'accès aux soins, à la garde et à l'éducation canine. La seconde mission consiste à favoriser l'inclusion du chien au sein des structures d'accueil, des structures sociales, par le changement des pratiques.
Très bien. Et donc le dispositif est relativement récent puisqu'il a été lancé en 2025. Comment est née cette initiative ?
Alors le dispositif a été, c'est un appel à projet qui a été édité par le préfet. Monsieur Blondel a participé à une maraude du SAMU social et au contact des gens de la rue, il a pu constater qu'il y avait de nombreux chiens dans les rues, que c'était une difficulté pour les personnes de pouvoir s'insérer et il a signé une convention avec Altea Cabestan pour permettre à ces personnes-là de se réinsérer. Voilà.
Ah, très bien. Alors, donc justement, pourquoi les pouvoirs publics ont-ils estimé qu'il était important de créer un accompagnement spécifique autour des chiens des personnes sans domicile ?
Alors, c'est suite à cette maraude, Monsieur Blondel a identifié le manque dans l'action sociale et solidaire. Il a pris l'initiative de solliciter les acteurs de terrain pour favoriser l'accès aux soins, les démarches administratives et l'insertion professionnelle des personnes à la rue. C'est en voyant des personnes exclues sur les maraudes qu'il a souhaité leur faire bénéficier d'outils de prise en charge des chiens.
Voilà. Ah ouais, très bien. Et donc le dispositif intervient principalement sur le territoire de La Rochelle et la communauté d'agglomération. Alors qui peut en bénéficier ?
Alors, les personnes bénéficiaires sont majoritairement des personnes sans abri. Le dispositif s'adresse principalement à eux. Les personnes victimes de violences peuvent également bénéficier du dispositif, notamment pour une mise à l'abri.
Ok, très bien. Et comment les personnes sont-elles orientées vers vous ?
Alors, on travaille avec de nombreux partenaires qui sont susceptibles de nous orienter des personnes, de repérer et d'orienter des personnes comme les médiateurs de rue, le SAMU social, le CIDFF, Tremplin 17 en addictologie, les accueils de jour et de nuit de La Rochelle, le CCAS, la PASS, enfin... Tout travailleur social de la CDA peut nous solliciter via un formulaire de demande que nous avons créé spécialement pour ça.
Très bien. Et ce ne sont pas donc les bénéficiaires qui vous contactent directement, mais les travailleurs, donc entre autres sociaux. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne un peu plus ce système de demande ?
Alors, pour ce que j'ai dit précédemment, en fait, il existe un formulaire de demande que beaucoup de travailleurs sociaux ont.
D'accord.
La personne sans abri est repérée. Le travailleur social va remplir ce formulaire et ensuite nous l'adresser.
D'accord.
Mais je me rends régulièrement dans des lieux où se trouvent les personnes sans abri. Donc, il peut y avoir un contact direct et une demande directe.
D'accord.
Dans des lieux comme le café Cosette à La Rochelle, le Carude, il y a aussi la soupe à Mumu, et voilà, il y a d'autres, il y a aussi des maraudes qui s'effectuent un peu partout dans La Rochelle avec le SAMU social, ce qui me permet de rencontrer directement des personnes isolées qui peuvent avoir besoin d'aide et bénéficier du dispositif.
Alors je vois quand même qu'il y a quand même un certain contact, vous avez un contact régulier avec les gens quand même, ces personnes-là qui sont en difficulté,
tout
donc ne sont pas laissées comme ça seules dans leur côté,
hein.
Vous êtes quand même là pour les soutenir,
tout à fait.
Les informer.
Ça, c'est très important, oui, de pouvoir informer et de travailler étroitement avec ces différents partenaires.
Très bien. Merci à vous. Alors, merci Annabelle et merci Sylvain pour cette mise en situation. Nous marquons une pause avant de parler concrètement des aides proposées. À tout à l'heure sur Demoiselle.
La radio d'ici.
Il est 10h16 sur Demoiselle. Si vous nous rejoignez, c'est la dernière de la saison de Paroles d'Animaux avec Rachel. Et ce matin, Rachel, vous recevez Althea Cabestan pour parler du dispositif Chien et Maître à la rue.
Voilà, de retour donc dans notre émission. Nous aimerions donc savoir, Annabelle et Sylvain, quelles aides sont donc mises en place pour le programme Chien et Maître à la rue. Alors, commençons par les soins. Vous travaillez notamment avec l'association Gamelle Pleine. En quoi ce partenariat est-il si précieux ?
Alors, l'association Gamelle Pleine est une association nationale qui œuvre pour le bien-être animal, et donc qui est très précieuse sur tout le territoire français. Nous travaillons en lien avec eux, mais nos activités sont un peu distinctes, en tout cas complémentaires. Donc, eux proposent des journées de vaccination gratuites, par exemple. Ils effectuent aussi des maraudes pendant lesquelles ils peuvent distribuer des croquettes. Donc ça, c'est très précieux pour les personnes sans abri.
Oui, c'est sûr.
Ils proposent également de prendre en charge des soins vétérinaires.
D'accord.
Voilà, donc leur activité est très importante et complémentaire vis-à-vis de la nôtre.
D'accord. Alors, quel type de soins pouvez-vous financer ou organiser ?
Alors, nous, on peut financer des soins d'urgence, des soins vétérinaires également, mais ça reste assez minoritaire dans la demande, puisque Gamelle Pleine prend quand même une grande place dans ce service-là. Voilà. Néanmoins, les personnes sans abri peuvent nous solliciter pour des soins d'urgence ou des soins vétérinaires. Et lors de maraudes, il arrive que nous distribuions des antipuces et des vermifuges, ce que ne fait pas Gamelle Pleine, donc d'où cette complémentarité.
Oui. D'accord.
C'est vrai qu'avec les récentes canicules, les antipuces et les vermifuges étaient les bienvenus pendant les maraudes.
Ah oui. Bon, d'accord, très bien. Et pourquoi est-il si important que les chiens soient identifiés et vaccinés ?
Alors, il est très important que les chiens soient vaccinés d'abord.
D'accord.
Ça les protège contre les maladies graves et potentiellement mortelles. Mm-hmm. Les vaccins aident également à prévenir la propagation des maladies au sein de la population canine. D'accord. Et puis, il faut savoir aussi que la protection s'applique aux chiens et aux humains, puisque, par exemple, la rage est transmissible à l'homme. Et donc, voilà, il est très important de faire vacciner ses chiens. Le vaccin est obligatoire. Même chose pour l'identification, qui est indispensable. En cas de perte ou de fugue, on peut retrouver facilement le propriétaire de l'animal.
Voilà, très bien.
Voilà, le système d'identification s'appelle l'ICAB et il facilite le retour au foyer.
Parfait. Et puis donc maintenant, on va passer à la garde de l'animal. Alors la garde de l'animal doit avoir un rôle très important. Alors justement, pourquoi la garde du chien est-elle souvent la clé qui permet à une personne d'avancer ?
Alors, il faut savoir que de nombreuses personnes ont un chien à la rue et que ça représente un vrai frein, en fait. Hein. Une personne avec chien ne peut pas accéder aux soins médicaux, oui. Ne peut pas se rendre facilement à un rendez-vous administratif. Et en termes de logement, il y a peu de structures qui accueillent les chiens et lorsqu'elles les accueillent, les places sont restreintes. Du coup, ça, voilà, il y a un vrai frein qui est constaté. Du coup, lorsqu'on peut garder le chien, lorsqu'on peut mettre en place cette garde d'animal, la personne, elle, peut se mettre à l'abri ou accéder à des soins alors qu'elle n'aurait pas pu le faire sans cette aide.
D'accord, parfait. Et puis, alors je voudrais savoir quand même, dans quelle situation êtes-vous le plus souvent sollicité, vous ?
Alors, on peut être sollicité pour la garde de chiens dans de multiples situations, dans le cas d'hospitalisation d'une personne, d'accord. Même l'hospitalisation d'urgence, dans le cas d'une entrée en cure, de démarches administratives, mm-hmm. dans le cadre de la reprise d'emploi, d'une formation, d'examens médicaux,
d'accord.
et d'une mise à l'abri. Hein, puisque j'ai parlé aussi tout à l'heure des femmes victimes de violences, mais ça peut être aussi les personnes sans abri peuvent en bénéficier également. On est sollicité principalement, je parle depuis ces 5 derniers mois, pour des mises à l'abri, donc une entrée en logement. Pour des hospitalisations, plusieurs entrées en cure, par exemple, de personnes qui souhaitent sortir de comportements addictifs.
Ah oui, d'accord.
Et puis, pour la reprise d'emploi, on a déjà, on a une troisième personne qui va reprendre un emploi et qui avait besoin de faire garder son chien. Donc là, c'est vraiment très précieux de pouvoir proposer ce service.
Oui, effectivement, là, on voit l'importance. Hein. Alors, vous travaillez donc avec l'ASPA de Lagor, hein. Alors, comment cette collaboration fonctionne-t-elle ?
Alors, sur l'année 2025, on s'est rapproché pour pouvoir mettre en place le gardiennage des chiens. On s'est rapproché des différents acteurs de la Charente-Maritime et on a conclu une convention avec la SPA. En octobre 2025, on a des places réservées pour les chiens qui appartiennent aux personnes de la rue. Comment ça se passe concrètement ? Eux s'engagent à accueillir un nombre de chiens à l'année, leur faire bénéficier des services de pension animale classique, des sorties, de la nourriture, etc. On est sur un public particulier, donc s'il n'y a pas d'identification et de vaccination à l'entrée, la règle pour pouvoir intégrer la SPA est d'être vacciné, que les chiens soient vaccinés et identifiés. Donc ils se chargent de ces interventions-là. Et puis, nous, on effectue essentiellement de la mise en relation avec les bénévoles. Ils ont des contraintes horaires qui doivent être communiquées aux gens de la rue. Annabelle fait le lien avec une professionnelle de la SPA quasi quotidiennement afin que les entrées se fassent dans des bonnes conditions. On peut être amené à regretter, par exemple, de l'abandon. Si les personnes ne qui ont déposé leur chien à la SPA ne viennent pas récupérer leur chien, ça n'est jamais arrivé, mais en tout cas la convention stipule que le chien serait remis à l'adoption, pardon. Mais pour l'instant, on n'a jamais été amené à regretter ce genre de situation. Ouais. Et
ils sont responsables.
Voilà. Mm-hmm. Oui. Il faut dire que la SPA est un partenaire précieux, vraiment très précieux. Ouais. Et comme le dit Sylvain, effectivement, moi je suis au téléphone avec Margot, la salariée de la SPA tous les jours, soit pour l'organisation, les entrées et les sorties de garde, soit pour prendre des nouvelles des animaux. Et ça fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment un partenaire indispensable.
Ouais, très bien. Alors, les propriétaires participent-ils financièrement à cette garde d'ailleurs ?
Alors, on demande une participation qui va être plutôt symbolique. Hein, c'est-à-dire que, comme l'a dit Sylvain, nous, on est conventionné avec la SPA. On paye un certain prix lorsque les chiens sont gardés. On demande une toute petite participation aux propriétaires des chiens de façon symbolique, simplement pour les responsabiliser.
Oui. Voilà,
voilà. Ouais. Hein, c'est l'idée. Alors parfois ils peuvent payer, parfois c'est différé, mais en tout cas voilà, on essaie de laisser cette responsabilité à la personne.
Bien sûr, d'accord. Alors les chiens peuvent-ils rester seulement quelques heures ou parfois plusieurs semaines d'ailleurs dans ces pensions ?
Alors à la SPA, le chien peut être gardé en minimum une journée.
D'accord.
Et au maximum six semaines, pardon, six semaines renouvelables une fois. Voilà, pour ce qui est de rester quelques heures, ce n'est pas possible. Actuellement, nous n'avons pas de bénévoles qui accepteraient de balader un chien, par exemple, pendant un rendez-vous médical ou administratif. Ce qu'on peut proposer, c'est une garde à la SPA d'une journée pouvant aller jusqu'à ces fameux six semaines.
Maintenant, on va parler donc du dernier volet, l'éducation. Alors, ce troisième volet concerne l'éducation du chien. Pourquoi est-ce parfois indispensable ?
Alors, il peut y avoir certaines situations critiques. L'objet de la convention du préfet parlait de tranquillité publique, de prévention de morsures, de nuisances sonores. Alors, il y a eu une période de diagnostic en 2025 où on s'est rendu compte que c'est essentiellement des rassemblements de chiens qui créaient ce genre de nuisances. On s'est rendu compte sur 40 personnes interrogées que seulement une trentaine étaient propriétaires d'un seul chien.
D'accord.
Donc il n'y a pas de meute. Les SDF n'ont pas de meute à la rue. Ouais. Et l'éducation canine, elle vient sensibiliser les gens de la rue sur la responsabilité de leur chien sur l'espace public. Voilà.
Très bien. Alors ça, c'est très bien. Merci. Alors, quels sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés, d'ailleurs ?
Alors, les situations problématiques, on va parler de négligence. Les besoins physiologiques sont pas toujours... et les besoins psychologiques du chien, de confiance, etc., sont pas toujours respectés. L'éducatrice canine, alors, elle vient faire avec Annabelle sur des temps de maraude ou sur des rendez-vous fixés, une évaluation et elle prodigue des conseils aux maîtres qui, pour le coup, connaissent particulièrement leur chien. Vraiment, la difficulté, c'est les rassemblements, sur les moments de rassemblement, éventuellement des états d'ébriété. À partir du moment où il y a de la consommation d'alcool et de produits stupéfiants, là, ça devient un peu plus complexe. Donc, on aborde d'autres sujets, et là, il y a de l'orientation de la part d'Annabelle qui se fait sur d'autres associations et d'autres professionnels.
Voilà. Très bien, merci. Alors, donc justement, vous travaillez donc avec une éducatrice canine. Alors, en quoi donc cet accompagnement facilite-t-il ensuite la vie du binôme maître-chien, notamment lorsqu'une personne retrouve un logement ?
Alors, nous, on a été amené à accompagner certaines personnes pour accéder sur des structures d'hébergement. En fait, l'éducatrice canine s'est positionnée comme un outil, une ressource pour l'équipe de la structure d'hébergement. On avait des craintes sur le manque de stimulation du chien, le passage de la rue à un espace clos. On avait des questionnements sur l'isolement, l'anxiété d'être seul et puis donc détériorer l'appartement. Voilà, l'éducatrice canine, elle s'est positionnée là pour et rassurer l'équipe et rassurer la personne qui intégrait l'hébergement. Voilà un peu la position de notre éducatrice canine. Voilà.
Très bien, merci. Alors, on reviendra donc juste après les informations sur l'inclusion, puisque ça vous tient à cœur aussi. Mais avant cela, donc, on va passer aux informations, le flash info d'ici d'Emmanuel Bidot. Allez, à tout de suite.
h 39 sur Demoiselle, bon week-end, même bonnes vacances en Charente-Maritime avec nous, et on poursuit notre émission Parole d'animaux avec vous Rachel, et c'est la news info comme tous les samedis, une semaine sur deux.
Exactement, alors la news info, donc aujourd'hui quelques informations et non pas d'interview. Alors donc je vais partir sur les informations du moment. Alors comme vous le savez, 117 chiens retrouvés morts en Californie, un drame qui rappelle que les refuges aussi peuvent déraper. En effet, l'actualité internationale a récemment été marquée par la découverte de 117 chiens morts dans un refuge en Californie. Une affaire qui choque les défenseurs de la cause animale. Derrière ce drame, les premières enquêtes évoquent un mélange de surpopulation, de difficultés financières, d'un manque de personnel et d'un contrôle devenu insuffisant. Malheureusement, ce type de situation n'est pas totalement isolé. Ici, en Charente-Maritime, souvenez-vous, beaucoup donc, d'entre vous se souviennent du sanctuaire de Raoni à cause. En 2025, sa responsable a été condamnée pour des faits de maltraitance animale après la découverte d'animaux amaigris, privés de soins et de conditions de vie dignes. Ces affaires rappellent une réalité parfois méconnue. Aimer les animaux ne suffit pas pour gérer un refuge. Accueillir des dizaines, voire des centaines d'animaux demande des moyens financiers, des compétences vétérinaires, des bénévoles formés et un suivi administratif rigoureux. Lorsque les abandons augmentent, que les adoptions ralentissent, elles, ou que les ressources diminuent, certaines structures peuvent rapidement se retrouver dépassées. Le meilleur moyen d'éviter ces dérives reste la prévention, lutter contre les abandons, encourager la stérilisation et soutenir les refuges sérieux qui accomplissent chaque jour un travail considérable auprès des animaux les plus fragiles. Ensuite, une autre affaire, donc vous vous souvenez aussi l'affaire Smoke, hein, un débat qui divise le monde de la protection animale. Alors l'histoire de Smoke, je vous le rappelle, un berger hollandais euthanasié par la SPA de Paris après plusieurs morsures graves, continue d'alimenter les débats dans le monde de la protection animale, malgré une importante mobilisation sur les réseaux sociaux et plusieurs propositions d'accueil dans les structures spécialisées. La SPA a maintenu sa décision, estimant que le chien présentait un niveau de dangerosité trop élevé. Alors cette affaire soulève une question difficile, hein. Jusqu'où peut-on aller pour sauver un animal lorsque sa dangerosité est reconnue? D'un côté, certains estiment qu'un sanctuaire spécialisé aurait pu lui offrir une fin de vie adaptée, sans contact avec le public. De l'autre, la SPA rappelle qu'elle a aussi une responsabilité envers les salariés, ses bénévoles et les futurs adoptants. Au-delà de l'émotion, cette affaire met en lumière un problème plus large. De nombreux chiens arrivent aujourd'hui en refuge avec un passé lourd, parfois marqué par la maltraitance, l'abandon ou un manque de socialisation. Les professionnels rappellent qu'il est essentiel d'investir davantage dans l'éducation canine, la prévention des morsures et l'accompagnement des propriétaires avant que les situations ne deviennent irréversibles. Le bien-être animal, c'est aussi savoir prévenir ces drames avant qu'ils ne conduisent à des décisions aussi douloureuses que celles prises pour Smoke. Ainsi, à la SPA, une nouvelle page s'ouvre avec la fin du mandat de son président Jacques-Charles Fonbonne. Ce changement intervient dans un contexte donc assez particulier, marqué ces derniers mois par cette vive polémique autour de l'euthanasie du chien Smoke. Alors, parlons maintenant de la santé animale. La canicule, comment protéger nos animaux? Avec les fortes chaleurs qui touchent actuellement la Charente-Maritime, nos animaux de compagnie souffrent eux aussi de la canicule. Contrairement à nous, les chiens et les chats transpirent très peu. Ils régulent principalement leur température en haletant, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux coups de chaleur. Le premier conseil est simple. De l'eau fraîche à volonté, renouvelée plusieurs fois par jour, On évite également les promenades aux heures les plus chaudes, entre midi et 18h. Les sorties sont à privilégier tôt le matin ou en soirée. Attention aussi au bitume, lorsqu'il dépasse les 50 degrés, il peut brûler les coussinets en quelques secondes. Un bon test consiste à poser sa main sur le sol. Si vous ne pouvez pas la laisser 5 secondes, votre chien ne doit pas marcher dessus. On pense également aux animaux plus discrets, les lapins, cochons d'Inde, oiseaux ou chevaux, ont eux aussi besoin d'ombre, d'eau et d'une bonne ventilation. Enfin, un rappel qui sauve des vies, on ne laisse jamais un animal seul dans une voiture, même quelques minutes. La température peut grimper de plus de 20 degrés en très peu de temps. Chaque été, ces gestes de prévention permettent d'éviter des drames. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des miases, un danger méconnu pour les chiens en été. Avec la chaleur et l'humidité, un risque bien connu des vétérinaires refait son apparition, la miase. Alors, derrière ce nom un peu barbare se cache une infestation de larves de mouches qui viennent se développer dans une plaie ou sur une peau souillée. Les chiens les plus exposés sont les animaux âgés, malades ou qui ont du mal à se déplacer. Une simple petite blessure, des poils souillés ou une irritation peuvent suffire à attirer certaines mouches qui pondent leurs œufs. En quelques heures seulement, les larves éclosent et commencent à se nourrir des tissus. Sans intervention rapide, les conséquences peuvent être très graves. Les signes doivent alerter, une mauvaise odeur, un chien qui se lèche de façon excessive, une plaie inhabituelle ou un animal qui devient soudainement abattu. La prévention reste heureusement assez simple. Il faut inspecter régulièrement son chien, surtout après une promenade, maintenir un bon toilettage, nettoyer rapidement les petites blessures et consulter un vétérinaire au moindre doute. L'été est une saison agréable pour nos compagnons, mais aussi une période où parasites, insectes et forte chaleur se combinent. Quelques minutes de surveillance chaque jour peuvent éviter de lourds traitements et surtout beaucoup de souffrance à nos animaux. Maintenant parlons des cyanobactéries. Alors vigilance pour les chiens à Andilly-les-Marais et Angoulins. Si vous promenez votre chien près des plans d'eau, un mot est à retenir cet été, les cyanobactéries. Ces micro-organismes, souvent appelés à tort algues bleues, prolifèrent lorsque les températures augmentent et que l'eau stagne. Les signalements sur cyanobactéries alertes ont conduit une vigilance renforcée sur certains secteurs de Charente-Maritime, notamment à Andilly-les-Marais et Angoulins. Les chiens sont particulièrement exposés car ils aiment se baigner ou boire directement dans les mares, les fossés et les étangs. Le problème, c'est que certaines cyanobactéries produisent des toxines très dangereuses. Après ingestion, les symptômes peuvent apparaître très rapidement. Vomissements, diarrhée, difficultés à marcher, convulsions ou, dans les cas les plus graves, une atteinte du foie et du système nerveux. Le meilleur réflexe est simple. Si une eau paraît verdâtre avec une couche en surface ou des dépôts ressemblant à de la peinture, mieux vaut empêcher son chien d'y entrer et de s'y désaltérer. En cas de doute ou si votre animal présente des symptômes après une baignade, il faut consulter un vétérinaire sans attendre. La prévention est aujourd'hui la meilleure protection face à ce phénomène qui tend à devenir plus fréquent avec les épisodes de forte chaleur. Ensuite, le point relais du marais aux oiseaux, un maillon essentiel pour la faune sauvage. Alors, chaque année, en Charente-Maritime, des milliers d'oiseaux, des hérissons ou encore des chauves-souris sont recueillis après avoir été blessés, percutés ou trouvés en difficulté. Alors pour faciliter leur prise en charge, plusieurs points relais, dont un désormais sur La Rochelle, existent dans le département. Leur rôle est simple, accueillir temporairement les animaux sauvages avant leur transfert vers le centre de soins du Marais aux oiseaux sur l'île d'Oléron, où ils sont soignés, puis lorsque c'est possible, relâchés dans leur milieu naturel. Le centre accueille chaque année plusieurs milliers d'animaux sauvages. Petit rappel important, un jeune oiseau trouvé au sol n'est pas forcément abandonné. Les parents continuent souvent à le nourrir avant de le ramasser. Il est conseillé d'observer la situation quelques minutes et de demander conseil à un spécialiste. En revanche, un animal blessé, couvert de sang, victime d'une collision ou attaqué par un chat nécessite une prise en charge rapide. Ces points relais reposent en grande partie sur l'engagement de bénévoles. Ils constituent un maillon indispensable, entre les habitants qui découvrent un animal en détresse et les soigneurs qui lui donneront une seconde chance. Un bel exemple de solidarité au service de la biodiversité locale. Et puis pour finir, Paradoxe, un festival qui fait aussi la part belle au bien-être animal. Alors, le Paradoxe Festival revient en Charente-Maritime les 14 et 15 août à la Ronde pour une deuxième édition placée sous le signe de l'inclusion. organisé à l'école de la vie et par l'école de la vie. Cet événement souhaite montrer que l'inclusion ne concerne pas uniquement le handicap ou les liens sociaux, mais aussi notre relation avec le vivant et les animaux. Le vendredi 14 août, dès 18h, le festival débutera avec un concert, des animations et des moments de convivialité. Puis le samedi 15 août, place à une journée entière de découverte avec des conférences, des ateliers, des démonstrations et un marché réunissant artisans, associations et professionnels engagés. Côté animal, plusieurs disciplines seront mises à l'honneur, comme la médiation animale qui utilise la présence d'animaux pour favoriser le bien-être et le développement personnel, mais aussi l'équicoaching, une approche basée sur la relation avec le cheval pour travailler la confiance, la communication ou encore la gestion des émotions. L'objectif est de faire découvrir un grand public comment les animaux peuvent devenir des véritables partenaires dans les accompagnements de personnes en situation de handicap, de fragilité ou simplement en quête de mieux-être. Les organisateurs recherchent d'ailleurs encore des exposants, des associations et des professionnels du monde animal, du bien-être et de l'accompagnement souhaitant rejoindre cette aventure. Une belle initiative locale qui rappelle que le lien entre l'homme, l'animal et la nature peut être un formidable vecteur d'inclusion, de partage et de solidarité. Allez, la News Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous revenons juste après une pause musicale.
Demoiselle. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something rude, I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand.
Rachel, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le 4 juillet aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est bien ça, je confirme.
4 juillet, eh bien, c'est un 4 juillet que Barry White nous a quitté à l'âge de 58 ans. D'où pourquoi le titre de Barry White. Vous m'avez demandé de mettre un disque.
Eh ben, merci pour cette précision et puis pour le choix.
Ben oui, je pense que ça fait plaisir à tout le monde.
Eh ben voilà, exactement, et effectivement, je suis très contente moi aussi.
Allez, on termine l'émission, ma chère Rachel. On le rappelle, hein, si vous venez d'arriver, Rachel reçoit ce matin Annabelle et Sylvain d'Altea Cabestan. On parle ce matin du dispositif Chien et Maître à la Rue.
Exactement. Alors de retour dans Parole d'Animaux, nous terminons notre émission toujours sur le programme Chien et Maître à la Rue. Alors avant de passer aux autres questions, favoriser l'inclusion du chien dans les structures sociales, cela vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors un des axes d'émission d'Annabelle et du dispositif, c'est d'accompagner les structures d'hébergement dans les changements de pratiques professionnelles et favoriser l'accueil des chiens sur les structures d'hébergement, participer à des réunions d'équipe, d'équipe, des temps de rédaction de projets d'établissement, ce genre d'action qu'on met en place. Sur l'année 2026, il y a à l'échelle nationale des associations qui proposent des formations pour l'accompagnement des établissements. On est en lien avec cette association, on verra pour 2027 si ça peut être mis en place sur la Charente-Maritime. Le dernier volet de la mission du dispositif Chien et Maître à la rue. Voilà.
Très bien, voilà. Merci.
Ce que je peux ajouter éventuellement, c'est de dire que je me rends dans les établissements qui me sollicitent, donc ceux qui ont le souhait de faire évoluer leurs pratiques et d'inclure davantage de chiens dans leur structure. Qu'il n'y a pas un modèle clé en main, hein, que ça dépend vraiment des équipes, de la structure. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir se rendre sur les lieux, de travailler avec l'équipe, d'entendre leurs réticences d'être force de proposition, d'amener des outils qui peuvent permettre en tout cas d'inclure davantage d'animaux au sein des structures.
Ah, très bien, merci pour ces précisions. J'aimerais maintenant revenir sur les idées reçues. Alors, dans l'imaginaire collectif, lorsque l'on voit un chien vivre dans la rue, beaucoup pensent immédiatement à de la maltraitance ou à de la négligence. Alors, qu'observez-vous, vous, réellement sur le terrain ?
Alors, sur le terrain, lors de maraudes, d'Annabelle ou du SAMU Social ou d'autres associations, on se rend compte que les besoins basiques du chien, manger, boire et dormir, sont remplis.
D'accord, c'est respecté.
Les besoins psychologiques, on va dire, être en confiance avec son maître, avoir un sentiment d'appartenance et la loyauté sont également présents. La différence, je pense, elle porte sur le fait qu'ils sont visibles au quotidien, contrairement à des chiens en appartement. Donc on s'arrête à une image qu'on a, à une photographie, et on n'est pas là le reste du temps. Donc effectivement, chaque propriétaire de chien à un moment donné peut s'énerver, rouspéter, etc. Le niveau de violence parfois chez les gens de la rue peut être excessif comparé au reste de la société, mais on voit pas de gros décalage par rapport au reste des maîtres.
D'accord. C'est bon de le dire. Merci à vous en tout cas. Le chien est-il aussi un formidable créateur de liens sociaux ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, ça dépend des chiens. Il y a des chiens à la rue, mais comme d'autres, qui sont impressionnants. C'est une manière pour les gens de la rue de rentrer en relation avec les citoyens lambda, de parler du comportement, du pédigré. C'est une manière d'entrer en relation avec le reste des gens.
De rester en contact dans la société même.
D'être valorisé aussi parce que certaines personnes se rendent compte que les chiens malgré tout bénéficient de croquettes, d'eau, etc. Les préoccupations majeures des gens à la rue, c'est d'acheter un paquet de croquettes au lieu de s'acheter un sandwich ou une canette des fois.
D'accord, très bien. Alors votre dispositif fonctionne, mais il reste encore des besoins aujourd'hui. Quels sont les principaux défis ?
Pérenniser le projet, essayer de faire en sorte que ça continue en 2027 et à défaut planter des petites graines dans les structures d'hébergement pour ouvrir les dispositifs.
Voilà. Très bien. Et vous avez également besoin que les collectivités justement continuent à soutenir ce dispositif. Alors quel message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui aux élus qui nous écoutent ?
Quel message renouveler la convention pour dans l'intérêt des personnes à la rue, mais également c'est aussi une préoccupation de santé publique, la santé animale, comme le disait Annabelle précédemment, ça a un impact sur la santé dans les rues de La Rochelle, donc pour les autres animaux, etc. Donc c'est une préoccupation de société, je pense. Donc Donc voilà. Après, il y a la réalité aussi du terrain, d'autres dispositifs qui se créent, etc. On verra.
Bon, très bien. Alors, ensuite, donc, pour terminer, une exposition est actuellement en préparation pour la Semaine nationale du chien. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Oui, tout à fait. Alors, actuellement, on travaille sur ce projet d'exposition. L'idée, en tout cas l'objectif, c'est de montrer le travail qui est fait par l'ensemble des partenaires à destination des animaux à la rue. Donc de montrer le travail de Gamelle Plaine, de montrer le travail d'Altea Capestan, de la SPA, du SAMU Social, enfin en tout cas toutes les personnes qui œuvrent pour la bientraitance animale. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu connu. Donc on a envie de montrer par le biais de photographies notamment, hein, et puis de textes, voilà la nature du travail qui est effectué à la rue. Et à cette occasion, il y a deux collègues qui font de très belles photos, qui y travaillent déjà. Voilà, donc on a hâte de pouvoir mettre ce projet en place.
Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Si les auditeurs ne devaient retenir qu'une seule chose de notre échange aujourd'hui, quel message aimeriez-vous leur transmettre en quelques mots ?
Les conditions de vie précaires à la rue n'empêchent pas un bon traitement des animaux. Les personnes à la rue sont pas plus maltraitantes que d'autres catégories de personnes dans la société. Il suffit d'aller vers eux sur certains instants pour se rendre compte de la préoccupation quotidienne des intérêts de leurs chiens et de leurs animaux. Il y a des professionnels qui ont une vigilance sur des situations de maltraitance, qui agissent, qui séparent, ce genre de choses-là. Plutôt valoriser, faire de la prévention, de l'éducation, plutôt que aller vers le versant enlèvement, abandon et dans le pire des cas euthanasie. Voilà le discours à retenir, je pense.
On l'a passé,
voilà.
C'est parfait. Eh bien, merci beaucoup Annabelle et Sylvain d'être venus partager avec nous votre expérience et nous faire découvrir ce dispositif aussi utile qu'innovant. Cette émission nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque personne vivant dans la rue avec son chien, il existe une histoire, un lien d'attachement profond et une réalité souvent bien éloignée des clichés. Prendre soin du chien, ce n'est pas seulement protéger un animal, c'est aussi permettre à une personne de se soigner, de retrouver un emploi, d'accepter une hospitalisation ou simplement de reprendre confiance. Espérons que cette initiative puisse continuer à se développer grâce au soutien des collectivités, des partenaires et pourquoi pas de futurs bénévoles. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Paroles d'animaux où nous continuerons à explorer de multiples liens qui unissent les humains aux animaux. À très bientôt sur Demoiselle.
Merci Rachel, bel été, bonnes vacances.
Et merci à vous deux aussi.
Et merci à vos invités, Annabelle Auriou et Sylvain Pérez-Ruiz. Bon week-end.
Oui, bonnes vacances à vous.